Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du lundi 28 juillet 2014, en direct de Washington, Bagassi Koura et Anne Alberson. Bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, les militants de Boko Haram ont enlevé ce dimanche la femme du vice-premier ministre camerounais. Le maire d'une ville près de la frontière nigériane crache d'air Algérie au Mali. Les membres des familles des victimes ont pu se rendre sur le lieu du drame.
C'est choquant, je m'attendais au moins de trouver quelques corps, quelque chose comme ça.
Rien.
Une miette.
Le Niger est dernier dans le classement 2014 selon les critères de l'indice de développement humain du PNUD. Ce matin, réaction du ministre Mohamed Bazoum.
Il faut cesser de marier les jeunes filles tôt, il faut cesser de marier les jeunes garçons tôt, il faut cesser de faire trop de femmes, il faut cesser de faire trop d'enfants.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté cette nuit une déclaration unanime appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et sans condition à Gaza. Les musulmans du monde entier commencent à célébrer cette semaine la fin du mois de Ramadan et vous aurez en fin d'émission l'actualité sportive et la musique. Pour l'instant, le journal.
Les militants de Boko Haram ont enlevé dimanche la femme du vice-premier ministre du Cameroun ainsi que le maire d'une ville près de la frontière nigériane. Trois autres personnes ont été tuées lorsque des hommes lourdement armés et soupçonnés d'appartenir au groupe islamiste nigérian Boko Haram ont attaqué des maisons de Kolofata dans le nord du pays. Selon l'armée camerounaise, de violents combats ont eu lieu entre les soldats camerounais et ces hommes lourdement armés en provenance du Nigeria. Une source proche du maire kidnappé a déclaré à la Voix de l'Amérique que les assaillants se seraient dirigés vers la frontière avec la femme du vice-premier ministre Ahmadou Ali. Le maire enlevé est aussi un chef religieux local. Le vice-premier ministre était chez lui pour célébrer la fête musulmane du Ramadan avec sa famille. L'attaque de ce dimanche est la troisième opérée par Boko Haram au Cameroun depuis vendredi.
Un médecin travaillant dans le plus grand hôpital du Libéria est mort du virus Ebola. Les autorités sanitaires du Libéria ont expliqué que le docteur Samuel Brisbane est décédé samedi dans un centre de traitement de l'Ebola dans la banlieue de la capitale Monrovia. Il est le premier médecin libérien à succomber à l'épidémie qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, a fait 129 morts dans le pays. Par ailleurs, l'OMS, l'organisation humanitaire américaine Bourse du Samaritain, a annoncé samedi qu'un médecin américain travaillant au Libéria est également tombé malade. Selon un porte-parole du groupe, le docteur Kent Bradley suit un traitement médical intensif en ce moment. Le virus Ebola, qui est très contagieux, a fait au moins 672 morts dans quatre pays d'Afrique de l'Ouest cette semaine, d'après l'OMS.
Et c'est dans ce contexte que Carrick Air, la principale compagnie aérienne nigériane, a décidé d'interrompre à partir d'hier ses liaisons avec le Libéria et la Sierra Leone, deux pays touchés par l'épidémie de fièvre Ebola. Félix Yepassis Zembrou.
La compagnie aérienne explique dans son communiqué qu'il s'agit d'une mesure de précaution et qu'elle a été prise pour préserver, et je cite, « la vie précieuse des Nigérians », rapporte l'agence France-Presse. Pour leur part, les autorités nigérianes ont depuis placé tous les ports et les aéroports du pays en alerte pour prévenir une propagation du virus. Pour rappel, un employé du gouvernement libérien, âgé de 40 ans, est mort vendredi à Lagos du virus Ebola, devenant ainsi le premier cas signalé au Nigeria. Selon de nouvelles données diffusées vendredi par l'OMS, le bilan de la flambée de fièvre hémorragique, en grande partie due au virus Ebola, continue de s'aggraver avec près de 1100 cas et 660 morts, dont 28 décès entre les 18 et 20 juillet en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone.
Les deux boîtes noires de l'avion d'Air Algérie qui s'est écrasé au Mali jeudi dernier ont été transférées hier à Bamako et sont en route pour la France où se tiendra ce matin à l'Élysée une réunion de suivi. La France, dont 54 ressortissants ont péri dans le crash sur un total de 118 victimes, met pour trois jours ses drapeaux en berne à partir de ce matin en signe de deuil. Réaction des proches des victimes dans la partie magazine de cette édition.
Poursuite ce matin à la cour criminelle de Brazzaville du procès de Marcel Ntsourou et d'une centaine d'autres personnes accusées d'atteinte à la sûreté de l'État, d'assassinat ou de rébellion. Trois semaines après l'ouverture de ce procès, les accusés ont commencé à faire d'importantes révélations et, faisant le point de ces audiences, les avocats de Marcel Ntsourou se sont dit être dans une position confortable. Des détails avec notre correspondant à Brazzaville, Nguelan Goussou.
14 des 114 personnes ont déjà été entendues par le juge, se contredisant assez souvent les unes des autres. Maître Bernard Amédé Nganga, l'un des avocats de Marcel Ntsourou, revient ici sur certaines déclarations.
Des forces armées qui ont interdit aux gens de sortir du domicile du colonel Ntsourou alors que c'était des simples visiteurs. Cela les a menés à les concentrer et ensuite le lendemain à faire l'assaut sur ces personnes-là pour donner l'impression que le colonel Ntsourou avait à son domicile des milices. D'autres déclarations concernant les gens qu'ils ont infiltrés pour pouvoir abattre le colonel Ntsourou lorsqu'ils vont faire l'assaut. Ça, c'est des révélations qui nous permettent de prendre espoir de ce que le dossier qu'on avait présenté antérieurement comme étant contre le colonel Ntsourou se révèle être plutôt en sa faveur.
Ce lundi matin, le juge va poursuivre avec ses auditions. Les avocats de Marcel Ntsourou ont d'ores et déjà annoncé de faire venir à la barre tous les hauts officiers de la police et de l'armée pour confrontation avec leurs clients. Maître Hervé Ambroise Malunga.
Le déploiement des armes, il faut nous dire qui a ordonné ça. Pourquoi on n'a pas fait cette perquisition seulement avec la police? Pourquoi on a amené toute l'armée? Qui a donné l'ordre de faire sortir les hélicoptères? Qui a donné l'ordre de venir mettre les chars? Qui a donné l'ordre de mettre les engins blindés? Il faut bien que ces gars-là répondent. C'est un crime contre l'humanité qui a été commis.
Il faut signaler par ailleurs que ces avocats ont dénoncé le week-end dernier au cours d'une conférence de presse l'absence des médias à ce procès suite à de nombreux obstacles orchestrés par des magistrats qui ont même déjà saisi une caméra appartenant à une télévision locale. Nguelan Goussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
500 jeunes Africains participent depuis le 6 juin aux États-Unis au programme YALI, initié par le président Barack Obama. C'est un programme destiné aux jeunes leaders d'Afrique subsaharienne. Ces jeunes gens seront reçus ce lundi à la Maison-Blanche. La centrafricaine Kessy Ekomo donc, est bénéficiaire de ce programme. Au micro de Félix Yepassis Zembrou, dévoile sa vision pour son pays.
C'est de notre devoir en tant que jeunes centrafricains de pouvoir agir. Et donc la vision que j'ai aujourd'hui, c'est que je crois en la jeunesse centrafricaine. Nous sommes une force pour ce pays. Et je crois que les jeunes centrafricains pourront travailler ensemble pour reconstruire ce pays et permettre un développement, le relèvement, la paix et le développement en République centrafricaine. Le chemin sera long, certes, mais il nous faut commencer. Il n'est pas trop tard. Et même dans la situation que nous vivons aujourd'hui, je sais qu'il y a des jeunes centrafricains qui se battent pour essayer de construire la paix dans leur communauté. Et ça, pour moi, c'est touchant. Ça me nourrit d'espoir. Je ne suis pas la seule à penser que la Centrafrique peut se relever et regagner sa paix. Il y en a beaucoup d'autres. Et donc, si on se met tous ensemble, je sais qu'on peut y arriver. Donc, moi, j'y crois vraiment.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
61 morts ce dimanche en Libye après 24 heures de violents combats, ce qui a porté à 150 le nombre de victimes en deux semaines d'affrontements dans ce pays. Les États-Unis, les Nations Unies et la Turquie ont retiré leur personnel diplomatique en raison de l'escalade de la violence. L'Égypte, la France, l'Allemagne, l'Indonésie et l'Espagne, à l'instar de plusieurs autres pays dont la Grande-Bretagne, la Turquie et les États-Unis, ont recommandé à leurs citoyens en Libye de quitter le pays immédiatement.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté cette nuit une déclaration unanime appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et sans condition à Gaza. Les 15 pays réunis d'urgence à New York exhortent Israël et le Hamas à faire appliquer pleinement ce cessez-le-feu pendant toute la durée de la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan, du jeûne du Ramadan et au-delà. Le président Barack Obama a lui aussi demandé hier un cessez-le-feu humanitaire immédiat et sans condition entre Israël et le Hamas, dont les trois semaines d'affrontement ont fait presque 1100 morts des civils, pour la plupart, Henri Francisque. Voilà, on revient donc sur les nouvelles. On n'a pas pu avoir Henri Francisque. Le département d'État américain a publié des images satellites montrant ce qu'il dit être la preuve que les forces russes tirent des roquettes et de l'artillerie lourde à travers la frontière dans l'est de l'Ukraine. Les images publiées dans un document de 4 pages hier montrent ce que les analystes américains affirment être de multiples tirs de roquettes et d'artillerie en provenance du territoire russe. D'autres images montrent des cratères d'impact près des positions militaires dans l'est du pays où les forces gouvernementales combattent des séparatistes pro-russes. Moscou n'a pas fait de commentaires sur les photos qui ont été diffusées alors que les combats faisaient rage près de Donetsk. C'est une ville de l'est ukrainien aux mains des rebelles. Voilà, c'est tout donc pour le journal. Merci à Anne Alberson. Il est 6h10 en temps universel, 2h10 ici à Washington, au micro Bagasikura. On commence tout de suite par ce crash d'avion dans le nord du Mali. Les deux boîtes noires de l'avion donc d'Air Algérie sont en train d'être acheminées en France pour des besoins de l'enquête. L'avion, vous vous rappelez, est tombé à une centaine de kilomètres de Gao dans le nord du Mali. Ce week-end, en plus des autorités burkinabées, maliennes, françaises, des membres des familles des victimes ont pu se rendre sur le lieu du crash en hélicoptère au départ de Ouagadougou. Retour sur événement avec les témoignages des proches des victimes avec Zoumana Wonogo. Il est notre correspondant à Ouagadougou.
Malgré la dure réalité du drame, certains parents des victimes sont partis voir par eux-mêmes.
Somda Eugène, j'avais deux de mes frères et puis ma belle-sœur et mes petits-neveux dedans. J'avais aussi une amie qui les avait accompagnés. Le constat, il n'y a pas grand-chose à constater. Des débris d'avion, de petits morceaux. Pas grand-chose pour reconnaître un avion. Un certain soulagement de savoir que je ne peux pas attendre grand-chose et que maintenant je sais où sont mes frères. C'est très important. Savoir qu'on, voilà, c'est à cet endroit-là que c'est leur tombe. Pas seulement une image sur une télé. Beaucoup de soutien pour les autres parce que beaucoup ne pourront pas supporter. C'est assez difficile. On veut bien aller savoir, mais est-ce qu'on est prêt à supporter ce qu'on verra? Ça va être très difficile.
Meroué Ahmed de la communauté libanaise à Ouagadougou. J'étais choqué. La pensée qu'au moins on arrive, on trouve quelque chose.
Rien.
C'est choquant. Je m'attendais au moins de trouver quelques corps, quelque chose comme ça. Au final.
Rien.
Une miette. Un avion qui prend 116 passagers. Il est en mille morceaux. Ouais.
En recevant les familles des victimes du crash, Blaise Compaoré, le président du FASO, a dit ceci.
Le procureur du FASO de Ouagadougou a ouvert une enquête judiciaire le jeudi 24 dans la soirée pour la recherche des causes du crash. L'enquête a été confiée à la gendarmerie, compagnie de sécurité aéroportière, qui a dépêché des officiers de police judiciaire sur les lieux du crash. Le procureur du FASO travaillera en étroite collaboration avec ses homologues du Mali et de la France, pays avec lesquels nous disposons des accords de coopération.
Les parents des victimes, de leur côté, veulent s'organiser en collectif. On écoute Der Somda.
Nos préoccupations sont comprises par les autorités. Mais davantage, il faut qu'on s'organise mieux. Pour le moment, nous sommes encore sous le choc. On n'arrive pas à s'exprimer. Nous sommes encore sous le choc. Mais comme il me dit que c'est une longue période que nous entamons, c'est nécessaire qu'on le fasse. Donc, si on se réunit à l'aéroport là-bas, on va essayer de constituer le collectif pour suivre. Les ministres, même les matin nous a suggéré ça. Il faut qu'on s'organise et si on a besoin d'un appui, même logistique, bureau, et puis on nous l'offrit.
Les deux boîtes noires de l'avion ont été retrouvées. L'analyse de leur contenu permettra d'en savoir plus sur les causes de ce crash très dramatique. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
En RDC, au nord Kivu, la situation sécuritaire se détériore sur le lac Kivu entre Goma et Gizeni. Presque chaque nuit, les pêcheurs sont attaqués soit par des bandits armés, soit par la marine rwandaise qui les accuse souvent de traverser les eaux congolaises pour faire la pêche clandestine du côté rwandais. Le lac Kivu n'ayant aucune frontière entre le Rwanda et la RDC, les pêcheurs nocturnes sont régulièrement arrêtés et transférés au Rwanda. Primo Pascal Rudaigua est notre correspondant au nord Kivu.
Il s'agit des pêcheurs qui travaillent uniquement la nuit pour pêcher les frétins du lac Kivu, communément appelé Sambaza.
Les tracasseries se portent bien sur les eaux du lac. Les bandits en provenance du Rwanda abusent de nous. La sécurité de notre pays est vraiment discutable, car ces militaires rwandais passent paisiblement sans que personne ne les inquiète. Nos militaires FRDC sont seulement là puisqu'ils font partie de la force navale. Et c'est tout.
La force navale congolaise qui devait sécuriser le lac Kivu observe tout simplement sans aucune réaction. Cette attitude inquiète les pêcheurs.
Une fois sur le lac, les bandits nous attaquent car nous nous trouvons dans une situation de carence sécuritaire. Ils sont les premiers à nous importuner pour dire après que nous exerçons nos activités sur les eaux qui les appartiennent. Nos militaires ne font rien même si nous sommes attaqués.
Les pêcheurs du lac Kivu pensent qu'ils sont délaissés par les autorités congolaises. Depuis qu'ils s'affrontent à cette insécurité, personne n'ose aborder ces sujets.
Nous souffrons vraiment car le gouvernement est en défaillance. Personne ne nous sécurise. Voilà pourquoi ces gens continuent à s'en prendre à nous.
Réagissant à toutes ces plaintes, le Conseil des ministres du gouvernement provincial du Nord Kivu a abordé cette question dans sa dernière rencontre. Marie Chematsibaeni est le porte-parole de ce gouvernement.
S'agissant de la pêche sur le lac Kivu, le ministre provincial en charge de l'agriculture a déploré les arrestations répétées de nos pêcheurs par la marine rwandaise et la confiscation de leur matériel de pêche. À ce sujet, le Conseil s'est dit préoccupé par cette situation et a instruit le ministre provincial ayant la pêche dans ses attributions de se pencher sur ce dossier en vue de mettre fin à cette pratique.
De l'autre côté, les autorités rwandaises estiment qu'ils ont le devoir de sécuriser leurs frontières à tous les niveaux pour éviter les infiltrations sur leur territoire national. Goma, Primo Pascal Rudahigwa pour La Voix de l'Amérique.
Ce matin, Mohamed Bazoum, ministre des Affaires étrangères du Niger, réagit au micro de notre correspondant Abdoul Razak Idrissa à la publication le 24 juillet dernier par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, du classement sur l'indice de développement humain IDH 2014. Le Niger est dernier sur les 187 pays classés. Ce n'est pas la première fois que le pays occupe un tel rang dans ce classement, suscitant du coup des réactions de désapprobation et créant une certaine polémique là-bas au Niger. Polémique que le ministre Bazoum estime inutile. Nous l'écoutons.
Ça ne sert à rien de continuer ce débat totalement inutile et presque stupide de mon point de vue. Les statistiques qui sont données, elles sont plus ou moins erronées pour tout le monde. Elles ne sont pas plus erronées pour le Niger que pour les autres pays. La vérité, c'est que nous avons une croissance démographique supérieure à celle de tous les autres pays. Et aux indépendances, nous étions un pays moins peuplé de loin que le Mali, que le Sénégal, que le Burkina Faso, que le Tchad. Aujourd'hui, nous sommes de loin plus peuplés qu'eux. Et parce que tout simplement, l'ensemble des facteurs sont divisés par le nombre de la population et au regard de notre taux de croissance très élevé, ça fait que ça nous réduit le quotient et nous sommes dans cette situation-là où, du point de vue de cet indice, nous sommes le dernier. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de routes ici, ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'écoles ici, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de ressources ici, qu'il y a moins de richesses ici. Seulement, lorsqu'on divise ça par le nombre de la population, ça donne un quotient très faible et ça donne du coup un taux très faible qui nous classe dernier. C'est ça la vérité. Il faut cesser de marier les jeunes filles tôt. Il faut cesser de marier les jeunes garçons tôt. Il faut cesser de faire trop de femmes. Il faut cesser de faire trop d'enfants. Tant que ça là se poursuivra, quelles que soient nos richesses, nous serons les derniers.
Voilà, Mohamed Bazoum, ministre nigérien des Affaires étrangères.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez. Et sur Radio Dalol FM à Dongondjouti.
Les Maliens se sont préparés pour la fête de Ramadan. Malgré la grande pauvreté cette année, bon nombre d'entre eux ont abandonné leurs habitudes. Les tailleurs n'ont pas vu beaucoup de clients. Les salons de coiffure, tout comme le marché de bétail, les rares acheteurs sont partis dans les boutiques de prêt-à-porter ou à la friperie pour acheter leurs habits de fête. Par contre, ceux qui ont les moyens n'ont rien changé. Chacun s'est préparé comme il le peut. Les femmes et leurs enfants ne sont pas restés en marge. Comment les Bamakois ont préparé la fête de Ramadan? Élément de réponse avec Kassim Traoré.
Pour les préparatifs de la fête des Ramadan, le grand marché de Bamako a été pris d'assaut par certains parents.
Bon, le prix des habits, c'est bien, mais en voyant que les gens n'ont pas d'argent seulement. Malheureusement, quand tu compares la fête passée cette année, ce n'est pas la même raison pour laquelle.
Sinon, l'année dernière, j'étais venu avec les mêmes deux filles là. J'ai eu pour 11 000 francs pour les deux. Maintenant, pour la fille là, elle me dit 5 000. Elle est la seule fille. Donc, ça devient un peu cher pour nous, les mamans, vraiment.
Dans l'atelier Tatia Couture, l'air n'était pas à la grande affluence comme les fêtes passées. Rosaline Kwa.
Les gens aiment trop de complications à l'approche de la fête, comme des gros broderies, des gros canitures, des choses comme ça. En ce moment, les gens n'aiment pas faire sortir beaucoup de l'argent parce qu'ils disent qu'il n'y a pas l'argent. Donc, c'est pas avantageux en tant que tel, mais on est obligé.
À Bamako, les meilleurs couturiers sont les Wolofs. Eux aussi se plaignent parce que les clients ne sont pas au rendez-vous. Mbeng Falou de Dak Art Création.
J'ai respecté les rendez-vous parce que rendez-vous là, il y en a des moments là, il va fausser à cause du courant, mais sinon là, j'ai respecté les rendez-vous. Ça dépend des clients là, parce que si tu donnes avance là, je vous fais tout pour n'avoir fait son avis.
Au Mali, chaque fête a son animal préféré. Pour la fête de Ramadan, c'est le bœuf.
Les bœufs sont chers par la simple raison que la plupart des bœufs qu'on est en train de vendre, ce sont des bœufs qui ont été nourris par l'aliment bétail. Et qu'à la dernière minute, la tonne de l'aliment bétail s'est retrouvée à 300 000 francs CFA. Forcément, les bœufs ne pouvaient être que chers.
L'opération Ramadan, qui consiste à vendre les bœufs moins chers, a été frappée aussi par la rareté des bêtes. Bakary Kone, responsable de l'opération Ramadan qu'organise l'État malien.
Habituellement, lors de l'opération Ramadan, on faisait des points de vente, l'hippodrome et l'annexe du terrain Chaba. Mais cette année, on s'est limité uniquement au niveau du terrain Chaba. Pris cette année, il y a trois fourchettes de prix. Premier choix, c'est de 200 000 à 250 000. Le deuxième choix, ça c'est de 200 000 à 150 000. Et le troisième choix, c'est de 100 000 à 150 000.
Malgré toutes ces difficultés, les Maliens se sont préparés. Chacun, comme il peut, a pu se trouver un habit de fête et pour ses enfants. Il reste la viande. Avec la solidarité malienne, il y en aura dans toutes les sauces. Bonne fête de Ramadan à tous les fidèles musulmans. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique, c'est l'heure des sports et j'accueille Jean-Roger Bion. Bonjour Jean-Roger.
Bonjour Bagassi.
En football, Ligue africaine des champions, on a joué ce week-end pour le compte de la quatrième journée de la phase de groupe.
Dans le groupe A, le Vita Club de la République démocratique du Congo a battu Al Hilal du Soudan 2-1. Dans le groupe B, Ali Benghazi de Libye s'est incliné 0-2 devant l'AS Sétif d'Algérie. Le CS Sfaxien a dominé l'Espérance de Tunis 1-0.
Et puis vous avez aussi, Jean-Roger, les résultats de la Coupe CAF, la Confédération africaine de football.
Oui, là aussi dans le groupe A, Coton Sport a défait l'ASEC Mimosa d'Abidjan de Côte d'Ivoire 2-1. AC Leopard de Dolisi, le représentant du Congo-Brazzaville, a perdu sur sa pelouse, sur ce même score 2-1 face à l'AS Real du Mali. Dans le groupe B, Al Ahly d'Égypte a disposé du Sewe Sport de Côte d'Ivoire 1-0 et Nkana FC de Zambie a défait l'Étoile du Sahel de Tunisie 4-3.
Et Jean-Roger, notons qu'au Burkina Faso, l'étoile filante de Ouagadougou, grâce à sa victoire 1-0 face à l'USO, a remporté le titre de champion du Faso à l'issue de la 30e et dernière journée de championnat disputée hier dimanche. Les stélistes, comme on les appelle, espèrent maintenant réaliser le doublé en cas de victoire contre le Racing Club de Bobo le 5 août à Bobo-Dioulasso, donc pour la finale de la Coupe du Faso. Et Jean-Roger, en Afrique du Sud, Mashaba est le nouveau sélectionneur.
Ephraim Mashaba succède à Gordon Higezoun à la tête des Bafana Bafana. Le technicien âgé de 63 ans a été choisi dans une liste de 18 postulants. Le premier challenge de Mashaba sera de qualifier le 11 Sud-Africain pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015.
Et puis enfin, du cyclisme, Vincenzo Nibali a remporté le Tour de France 2014.
Oui, Bagassi, le Sicilien de 29 ans, a conquis le maillot jaune final du Tour de France hier. Vincenzo Nibali est le premier coureur italien à gagner le Tour depuis Marco Pantani en 1998. Avec lui, 163 cyclistes ont passé la ligne d'arrivée sur les Champs-Élysées Pour la première fois également depuis 1984, la France a eu deux représentants sur le podium final. Jean-Christophe Perrault, l'un des doyens du peloton français âgé de 37 ans, sur la deuxième marche, et Thibaut Pinot, âgé de 24 ans, sur la troisième marche. Le Tour de France a débuté cette année par un extraordinaire succès populaire en Angleterre et a été couru sur 3661 km.
Voilà, comme on le dit souvent, un Roger en cache un autre. Après les sports avec Jean-Roger Billon, la page musicale avec Roger Moutou. Bonjour Roger.
Bonjour Vagassi. Ce matin, on écoute Lucky Dubé, chanteur sud-africain de reggae qui nous a quittés il y a 7 ans. Il chantait son enfance, son vécu, l'histoire, l'Afrique, les problèmes politiques, sociaux, personnels et humains. Il luttait aussi contre les discriminations raciales et ethniques, contre la ségrégation et l'exclusion. Dubé prêchait l'unité entre les hommes. Lucky Dubé, House of Exile.
Alors Roger, à 18 ans, Lucky Dubé profitait de ses vacances scolaires pour enregistrer ses premières chansons.
Oui, Bagassi, c'était avec le groupe The Love Brothers en 1982. Il a sorti l'album Lucky Dubé and the Super Soul, dont il est le chanteur principal, mais il n'avait ni écrit ni composé les chansons de cet album, contrairement aux albums suivants.
Lucky Dubé dans House of Exile. Merci Roger.
De rien Bagassi. Ce matin, nos salutations vont à notre auditeur Oumar Koulogon à Bamako.
Roger Moutou que vous retrouvez chaque jour dans RM Show à partir de 20h temps universel. C'est donc avec House of Exile de Lucky Dubé que s'achève notre édition du jour. Merci à Anne Alberson pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction de La Voix de l'Amérique. Merci de nous avoir suivis et passez une excellente journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, La Voix de l'Amérique.